Éric Bourguignon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion taux et crédit chez Swiss Life Asset Managers. On va parler avec vous de cette situation sur les marchés. Sur cette partie taux, justement, est-ce que les investisseurs ont été se réfugier sur ces actifs dits moins risqués ou non risqués même ou est-ce que ça n'a pas été le cas?
Alors oui, avec la déconfiture des bourses chinoises, effectivement, il y a eu un moment, quelques transferts visiblement vers les marchés dits sans risque, à savoir les emprunts d'État allemands et américains. Mais ça a été relativement bref, puisque ce matin, ça remonte assez fortement.
Et qu'est-ce que ça veut dire justement ce type de peut-être de flux qui ne vont pas vers qui ne font pas la réaction traditionnelle? En général, quand ça baissait sur les marchés actions, on avait ce mouvement-là, on ne l'a pas de manière significative peut-être.
Oui, dans un premier temps, l'effondrement des bourses chinoises qui s'est reflété également sur les bourses occidentales a provoqué un mouvement de panique et le réflexe pavlovien, c'est d'acheter immédiatement des emprunts d'État des pays corps, comme on dit. Dans un second temps, je pense que les gens comprennent que cette crise chinoise concerne surtout le monde émergent et peut-être à plus long terme les pays occidentaux, mais à court terme, l'impact sera probablement limité. Et donc, les gens ont revu un petit peu peut-être leur position et sont revenus sur les marchés risqués au détriment donc des marchés de taux d'intérêt.
Est-ce que ça change ce que c'est cette crise chinoise? Parce que finalement, elle a été d'une ampleur bien supérieure à quand on parlait de la Grèce un petit peu avant l'été ou à la moitié de l'été. Finalement, on s'aperçoit que ça a été beaucoup plus violent, en tout cas, la réaction des investisseurs. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'économie mondiale?
Oui, non, encore une fois, bon, la Chine, c'est un acteur important, c'est certain, mais en fait, c'est surtout sur le monde émergent que l'impact peut être le plus fort, pour deux raisons. Le premier, c'est que la Chine consomme énormément de matières premières, du pétrole, des métaux. Bien sûr, la demande va s'effondrer, donc ces pays vont être impactés directement. Et puis, le second impact, ça sera que beaucoup de pays émergents sous-traitent la production chinoise. Donc, à ce titre, si l'économie chinoise ralentit, évidemment, là aussi, ils seront impactés directement.
Alors, le déclencheur de finalement cette crise qui a duré cet été, c'était au départ, c'était la dévaluation du yuan, la monnaie chinoise, qui n'était pas forcément prévue. On est sur une guerre des monnaies en ce moment?
On est depuis de nombreuses années sur une guerre des monnaies. Je pense que les Chinois sont maîtres en la matière. Ça fait 30 ans qu'ils jouent avec leur monnaie. Ils avaient plutôt stabilisé les choses ces dernières années. Donc effectivement, ça a été une surprise. Oui, ça s'inscrit dans un mouvement général où tous les moyens sont bons pour essayer de relancer la croissance, d'éponger la dette qui étouffe l'économie mondiale. Donc ça s'inscrit effectivement dans cette logique.
Donc aujourd'hui, ce sont les Chinois. Demain, ça peut être la Banque Centrale Européenne qui, à nouveau, prend un certain nombre de mesures.
Oui, mais la BCE a déjà fait son entrée dans la guerre d'échange en juin 2014 en déclarant que l'euro était surévalué. Et comme par hasard, depuis, l'euro a perdu 30%. Donc l'euro est en pleine guerre d'échange en ce moment, après très longtemps avoir été absent de ce combat.
Est-ce que ça peut, à nouveau, puisque l'euro est reparti un petit peu, donc ça pourrait gêner la Banque Centrale européenne qui pourrait prendre de nouvelles mesures de votre point de vue, est-ce qu'elle restera sur ce qu'elle a fait jusqu'à présent?
C'est probable, d'ailleurs elle nous l'a annoncé pas plus tard que ces derniers jours. Il est clair que si la croissance ralentissait, si l'inflation allait en deçà de ce qu'elle espère, on a compris qu'elle n'hésitera pas à augmenter la dose de quantitative easing qu'elle a déjà programmée pour les prochaines années.
On a toujours deux visions sur les marchés, on a la vision des marchés actions et puis la vision des marchés obligataires. Il y a ceux sur le long terme qui croient toujours ce que disent les marchés obligataires. Qu'est-ce qu'ils nous disent finalement quand on voit ces taux aussi bas?
Ils nous disent qu'il n'y aura pas d'inflation. Et puis, ils nous disent surtout qu'ils sont actuellement sous le contrôle des banques centrales, puisque ce sont les banques centrales qui fixent le niveau des taux d'intérêt. C'est pour ça que l'interprétation qu'on peut avoir des marchés de taux et obligataires en particulier est à prendre avec beaucoup de précautions, parce que ce sont des taux manipulés et qui n'ont plus le caractère prédictif peut-être qu'ils avaient dans le passé.
Aujourd'hui, est-ce que les investisseurs ne se reposent pas trop justement sur les politiques des banques centrales, ou on s'est peut-être posé des questions cet été justement sur cette efficacité l'efficacité moindre peut-être que ce qu'on en attendait?
Je pense qu'ils ont raison de se reposer sur les banques centrales, puisqu'effectivement, on a bien compris là aussi qu'elles seraient là pour très longtemps, qu'elles arroseront toujours l'économie et les marchés de cash pendant des années, et qu'à ce titre, il y a une espèce de protection qui est apportée aux marchés financiers par les banques centrales. Maintenant, où je vous rejoins, c'est qu'on sait bien que ces solutions monétaires ne sont pas des solutions définitives au problème de surendettement qui mine l'économie mondiale.
Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas finalement cette question-là de la croissance économique mondiale? On parlait de la Chine ou falloir s'habituer à une croissance un peu moindre. Les États-Unis, on parle de 2-3%, c'est pas les États-Unis d'il y a quelques années.
Bien sûr, il y a un problème de croissance dans le monde et lié à un problème de surendettement. Les deux font mauvais ménage en général. Effectivement, on voit mal comment, avec cette croissance relativement médiocre post-crise, on pourra résoudre ce problème qui est toujours présent de la crise de l'endettement qui avait provoqué la crise et qui n'a toujours pas été résolu à ce jour.
Pour les investisseurs aujourd'hui, ils ont malgré tout peu de choix, puisqu'il y a ce qu'on disait sur les banques centrales, ils vont sur des actifs un peu plus risqués.
Dans un monde où rien ne rapporte plus rien, effectivement, les investisseurs sont tentés de prendre un peu plus de risques pour avoir un peu plus de rémunération. Là, il faut faire très attention parce que tous les actifs n'ont pas les mêmes risques. Et souvent, pour gagner un petit peu plus, on est amené à prendre des positions sur le marché qui sont peut-être pas très sages compte tenu des risques sous-jacents.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que cette crise de l'été, crise chinoise et crise sur les marchés mondiaux, c'est une alerte? Comment vous la qualifieriez?
Non, enfin, ça révèle que l'économie chinoise est effectivement confrontée à des problèmes, que les chiffres officiels ne valent pas grand-chose, mais ça, c'est pas une surprise. Donc, effectivement, on a quand même un des gros acteurs mondiaux qui aujourd'hui est à la peine. Ça a été confirmé par cette dévaluation, puis ensuite par les baisses de taux d'intérêt, de réserves obligataires, etc. Donc, effectivement, c'est pas anodin qu'un gros acteur comme ça éprouve des grandes difficultés en matière de croissance.
L'enjeu, ça va être d'être peut-être encore plus diversifié qu'avant, compte tenu de ces risques qui sont apparus au cours de l'été?
Tout à fait. Je pense que la diversification est à la base de toute gestion de patrimoine aujourd'hui. On voit bien que les marchés s'inquiètent par épisode d'un problème local. Et puis ensuite, une fois que ce problème est résolu ou oublié, on passe à un autre problème sur une autre zone géographique. Donc il faut absolument être diversifié à la fois géographiquement et en termes d'actifs.
On avait surestimé finalement le risque grec au détriment du risque chinois?
Non, on ne l'avait pas surestimé. La Grèce était au bord de la faillite, hein, soyons clairs. Donc on a trouvé une solution très simple, c'est qu'on va reprêter au pays pour qu'il puisse nous rembourser, ce qui va durer quelques années. Donc le répit risque d'être certes relativement long, mais provisoire.
On disait marché obligataire, marché action. Quand on voit ce qu'il y a sur les marchés de matières premières, les cours, hein, pétrole aussi bas, on se dit la reprise, ce n'est pas demain.
Enfin, je crois que clairement, l'effondrement des prix des matières premières, comme on l'a dit tout à l'heure, est intimement lié au problème chinois, parce que c'était l'outil productif du monde qui consommait toutes ces matières premières. À partir du moment où il marque le pas, évidemment, la demande est plus faible et ça rejaillit immédiatement. Je pense que ça ne traduit pas forcément un ralentissement mondial généralisé. On sait bien que les États-Unis connaissent une croissance tout à fait acceptable, que les Européens sortent un petit peu la tête du trou. Donc, de ce point de vue-là, non, je pense que c'est vraiment lié au problème chinois.
Le mot de la fin. Avant l'été, on mettait souvent en avant la zone euro, un petit peu comme zone d'investissement. Est-ce que c'est toujours le cas?
Alors, d'un strict point de vue investissement, oui, parce qu'elle a peut-être du retard par rapport aux États-Unis. Maintenant, si c'était seulement les chiffres de croissance qui devaient guider les placements, de ce point de vue-là, l'Amérique, une fois de plus, nous dame le pion.
Merci Eric Bourguignon.